Interview.
1 du jour.
Salut Jérôme.
Salut.
Jérôme Bouvier sur RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Nous allons parler du FestiWild dont tu es un des organisateurs.
Ouais, tout à fait. Alors l'histoire un peu de cette aventure, c'est Frédéric Sauvage, le directeur du monastère, qui était en lien avec Madeleine Reynaud, la directrice de l'ASPAS, une association de protection de la nature qui est basée à Cré. Et Fred avait envie de faire, en alternance avec les éphémères, un événement d'ampleur, donc tous les deux ans. Et les deux, en discutant, étaient partis sur un festival plutôt de films. Et puis, quand ils m'ont contacté pour savoir si je voulais faire partie de l'aventure, on a remanié un petit peu tout ça. On s'est dit que des festivals de films, il y en a plein, festival nature. Qu'est-ce qu'on allait pouvoir apporter là-dedans plutôt que de faire le énième festival de cinéma? Et du coup, on est parti autour de cette thématique de nature sauvage pour amener les gens à réfléchir à cette notion-là dans l'ère contemporaine dans laquelle on est, ou qu'est-ce que ça veut dire le sauvage, qu'est-ce que les polémiques autour du loup, autour des nuisibles, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ces espèces, quelle place on laisse aux autres, est-ce qu'il peut y avoir de la place pour une nature non maîtrisée par l'homme, tout ça. Donc, et on s'est dit, partons sur cette thématique. Et là, on s'est vite rendu compte que c'était d'une vastitude énorme. On peut tout ramener à ça.
On pourrait même repasser des films quand même de temps en temps.
Voilà. Oui, mais il y en a d'ailleurs, il y en a.
Voilà.
Et donc, c'était d'une richesse incroyable, quoi. Et c'était extrêmement enthousiasmant. Et puis, à notre connaissance, il n'y a pas grand-chose qui existe sur cette idée-là. Donc... voilà.
On va rentrer surtout dans le détail du programme parce que c'est bien ça qui en fait sa spécificité. Mais avant, donc tu disais Fred, donc c'est le monastère de Sainte-Croix. On n'avait pas précisé, même si peut-être tout le monde le sait. Pourquoi ils sont venus te chercher?
Parce que moi je suis cinéaste animalier. Je suis à la fois réalisateur et chef opérateur. Et donc j'ai bossé sur des films de cinéma comme sur des films télé, etc. Pour eux, dans leur esprit de nature et de film, je pouvais être la bonne personne pour amener quelque chose.
Ah oui, c'est ça, ils sont venus te chercher sur le film et toi t'as dit
voilà. pas que le film. Exactement.
C'est quoi ton parcours? Tiens, on en profite pour te tailler le portrait, Jérôme. Alors, c'est la première fois que t'es là.
Ouais, tout à fait. Mon parcours, c'est au départ, j'ai une formation de scientifique, de biologiste. Et c'est que très tardivement que j'ai découvert le cinéma animalier, nature, suite à un voyage dans les terres australes et antarctiques françaises où je suis resté 13 mois là-bas, où j'ai découvert la photo, la vidéo, j'ai rencontré un cinéaste australien professionnel qui faisait un grand film sur les orques, etc.
En tant que biologiste, tu y allais là-bas?
En tant que biologiste, ouais. Et puis petit à petit, j'ai bifurqué sur le cinéma et puis j'ai tout appris sur le tas pratiquement. Je pense que tout le monde a entendu parler de Luc Jacquet, qui est le réalisateur de La Marche de l'Empereur. Nous, on se connaît depuis le Doug, bien avant d'imaginer tous les deux faire ce boulot. Et on était deux très très grands potes, on l'est toujours, mais on était les meilleurs amis du monde. Et puis il a eu un peu une histoire similaire à la mienne. Et quand on s'est retrouvés, après 2 ans d'absence, à avoir vécu des choses parallèles, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne se lancerait pas dans cette aventure-là? Et on a monté un projet ensemble, en fait, etc. Puis lui, il a eu la carrière qu'il a eue. Et moi, la mienne de mon côté.
Qu'est-ce que tu as qu'on pourrait connaître?
Alors, la dernière en date qui a fait quand même pas mal de bruit, qui est passée sur Arte, c'était en janvier, il y a 1 an et demi, si je me souviens bien. C'est Antarctica, sur les traces de l'empereur, à travers l'expédition de 2 photographes naturalistes réputés dans le milieu naturaliste. Un plongeur sous-marin, Laurent Balesta, et Vincent Munier, certainement un des meilleurs photographes naturalistes au monde. À travers leur expédition en Antarctique, je raconte ce qui se passe en Antarctique en ce moment, les grands changements qu'il peut y avoir, les conséquences sur les espèces. C'était une grosse expédition, il y a eu plein de choses autour de ça. Et donc il y a eu le film que j'ai fait, il y en a eu un deuxième d'une heure qui a été diffusée aussi. Mais là où le public peut percuter, c'est qu'il y a eu une énorme exposition au musée des Confluences à Lyon, qui est resté plusieurs mois, qui a été remise en route plusieurs fois, parce que tellement elle avait de succès, et qui était basée sur cette expédition, où il y a des images à moi qui sont là-bas, mais c'est pas moi qui l'ai monté, ça c'est Luc, mais voilà, donc les gens ont peut-être entendu parler de ce projet, voilà. Après, j'ai bossé comme chef opérateur sur le dernier film de Jacques Perrin, sur tous les films de Luc
les
Jacquet,
saisons.
Etc., les saisons, tout ouais. à fait. Sur les derniers films de Luc Jacquet, Il était une forêt, La glace et le ciel, Le renard et l'enfant, tout ça, voilà.
Ah, Il était une forêt, très très beau aussi.
Ouais, tout à fait.
J'en profite juste pour avoir une petite anecdote. Comment est-ce que vous avez filmé les loups qui courent après les chevaux dans les saisons? Je ne comprends pas cette scène.
Cette scène-là, donc...
C'est quoi? C'est au drone?
Non, c'est... Alors, il y a des images de drone aussi, mais ça, on les repère assez vite. Mais tout ce qui est au ras du sol, en fait, c'est un espèce de tricycle qui a été conçu pour le film. Dans chacun de ses films, Jacques Perrin, il invente des nouveaux procédés. Et là, donc, il a fait une espèce de scooter à trois roues qui pouvait aller à 80 km/h avec trois scooters, avec des systèmes de suspension pas possibles. Une plateforme derrière pour mettre un steadicammer, donc quelqu'un avec un système de caméra très, très stable, et avec un pilote. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Donc le scooter électrique, je précise bien, était lancé à côté des chevaux en parallèle, ou des loups, ou du sanglier, etc. Et filmait ce qui se passait à quelques mètres d'eux en parallèle à pleine balle, quoi.
Donc toutes ces espèces sont là, en l'occurrence, sont vraiment des acteurs et sont dressées, hein.
Alors, c'est un mélange. Les saisons, c'est un mélange, mais il y a beaucoup d'animaux imprégnés, qui sont là pour le film, pour faire des séquences très précises. Et il y a un mélange avec des espèces sauvages, avec plusieurs équipes qui ont tourné en sauvage. Et notamment, moi, j'ai tourné sur les bœufs musqués, sur les rennes, sur l'entrée du film, toutes les images d'hiver. Et ça, c'est fait avec des animaux sauvages en Norvège. Ouais.
Ouais. Donc, toi, t'es plutôt hiver, hein, l'Antarctique, les 7
c'est
de
vrai,
froid.
J'adore l'hiver.
Du sauvage en hiver, c'est quoi? T'es sous ta couverture de survie et t'attends pendant quand même des heures dans le froid, non?
Ouais, tout à
c'est
fait.
C'est pire
ouais,
que l'été ou la pluie.
Ben, pire, ça dépend de comment on est équipé. Le froid, on peut s'équiper. Quand il fait chaud, il y a un moment, on peut plus, quoi.
Oui, c'est vrai.
Et c'est très, très compliqué. Et donc, voilà, ouais, c'est beaucoup d'attentes, beaucoup de connaissances aussi des animaux, etc. On travaille beaucoup aussi avec des gens qui connaissent bien mieux que nous, parce qu'on ne peut pas tout connaître, et qui connaissent surtout des lieux très, très bien intimement dans ce que font les animaux. Et donc, on utilise beaucoup ces ressources-là, ouais.
Qu'est-ce qu'il faut être, selon toi, pour être un bon photographe animalier?
Un bon cinéaste animalier?
Ouais, photo... moi, je suis pas... preneur de caméra, pardon.
Ouais, parce que moi, je suis pas photographe, je me considère pas comme un bon photographe animalier. Vidéaste animalier...
Est-ce qu'on parle pas de photographie aussi, quand on filme?
On est, moi, je suis directeur de la photographie, effectivement.
Ah oui,
donc, il y a une espèce de mélange.
Alors, pardon, je mêle les termes exprès.
Moi, ce que je trouve très important, c'est de donner du sens aux images qu'on fait. C'est-à-dire qu'elles viennent s'inscrire dans une histoire, dans un propos. Là, ça impose une façon de filmer très particulière pour accentuer le sens qu'on va donner à ces images. Et donc, un bon directeur photo, un bon caméraman, et un bon réalisateur, c'est quelqu'un qui va mettre du sens dans ces images-là, et avec quelque chose de très cohérent, quoi.
Un mot pour terminer sur toi-même, sur cette Antarctique, cette neige, tout ça, tu dois être particulièrement témoin de changements assez radicaux, dont on ne parle pas assez, c'est le moment.
Oui. Alors, le témoin, ça c'est très très compliqué. Je fais beaucoup de voyages pour faire ce boulot-là, effectivement, mais je reviens assez rarement aux mêmes endroits. Bon, en l'occurrence en Antarctique, j'y étais allé déjà il y a 20 ans. Mais savoir que les changements qu'on voit du paysage sont dus au réchauffement ou au changement climatique ou pas, c'est très compliqué en fait. Et ça, il n'y a que les scientifiques qui parviennent à dire ça. En fait, j'ai qu'une manifestation très très évidente du réchauffement en Antarctique, c'est la pluie.
Avant, il ne pleuvait pas.
Avant, il pleuvait pas, c'est-à-dire que là-bas,
pas de neige d'ailleurs, il y a pas de précipitation.
Il y a très peu de précipitations. Il y en a, il y a beaucoup de neige soufflée avec le vent, etc. Mais il y a très peu de précipitations sur le continent. La base française de Dumont-Durville, où on était basé, c'est sur des îles à quelques kilomètres du continent, donc le climat est un peu plus doux, un peu plus humide aussi. Mais il n'empêche que depuis que la base est installée, donc il y a un peu plus de 40 ans, ils n'avaient jamais enregistré de pluie, d'épisode de pluie. Et ces dernières années, quasiment tous les ans, il y a de la pluie qui provoque des catastrophes parfois énormes suivant le moment où elle tombe. Et il y a 2 ans, je crois que l'an dernier, il y a 3 ans, il y a eu des hécatombes chez les manchots, les poussins de manchots à Delhi, parce que la pluie est arrivée au moment où il y avait les poussins qui ne sont pas étanches. Et donc, ils se sont retrouvés tout mouillés et la nuit d'après, ils ont gelé. Et ça a fait des hécatombes. Voilà, il y a une année, il y a eu zéro poussin a survécu à ces pluies.
Et quand on est traqueur d'images venant d'animaux, est-ce qu'il est de plus en plus difficile de trouver des sauvages et des espèces? Enfin, ça aussi, ça doit se voir quand même que la biodiversité est en train de...
Ouais, les milieux se réduisent vraiment. Après, il reste encore des zones extrêmement riches. Qu'on considère riche, mais je pense que si je les avais vus il y a 50, 100 ans, eh ben, ça aurait été encore autre chose, c'est sûr. Donc on relativise tout aux choses les plus pauvres et tout ça, mais je pense que la biodiversité qu'il y avait il y a un siècle, c'est pas du tout la même que celle qu'il y a maintenant. En tout cas, on voit les traces humaines. Parce que ça m'a vraiment choqué. Je me suis retrouvé plusieurs fois dans des endroits, mais complètement inaccessibles. On y allait avec des heures d'hélicoptère ou des jours de marche et de pirogue, etc. Et on se retrouve parfois dans des décharges publiques, notamment sur des plages où il y a des déchets pas possibles, dans des endroits où il y a pas d'hommes, quoi. Donc on sent bien que tout ce qu'on jette ici,
ça déborde
et ça atterrit n'importe où. En Antarctique, dans les glaces, il y a des traces des explosions nucléaires, il y a des traces des mines, des Romains, il y a des traces, etc. Donc on est vraiment dans un tout où tout est lié et ce qu'on fait ici dans nos pays, ça se répercute partout, quoi.
Merci Jérôme pour cette présentation. Et on peut retrouver ton travail, tu le disais, sur un certain nombre de documentaires qui, en dehors d'être des documentaires animaliers comme on a l'habitude de voir le lion qui mange la gazelle, sont souvent des documentaires avec des messages, un message d'écologie en tout cas qui mérite son intérêt. On revient sur ce festival, donc tu es co-organisateur au monastère de Sainte-Croix. Tout d'abord la date.
La date, donc c'est le 28, 29, 30 septembre. Voilà, et le 28 septembre, ça commence à 18h, les hostilités pour le public, en sachant que le reste de la journée du vendredi sera consacré à des scolaires. À peu près une petite centaine d'élèves de la région. On leur a concocté toute une journée pédagogique en collaboration avec des conseillers pédagogiques, avec l'éducation nationale, les instituts d'ici, qui maintenant prennent ce projet à leur compte, voilà, exactement, et sont très enthousiastes et on est même obligé de refuser des classes, malheureusement, pour cette première édition déjà, parce que beaucoup de monde est intéressé. On essaiera de faire beaucoup mieux l'édition prochaine, donc en 2020.
Donc 18h dès le vendredi. Est-ce qu'on rentre, on rentre dans le détail un petit peu de ce programme?
Alors,
qu'est-ce que vous allez proposer?
Alors, c'est extrêmement riche puisque c'est autour de cette thématique du sauvage. Et là, ça va des expos aux conférences en passant par des projections de films, des spectacles, des concerts, des humoristes, des sorties nature. Donc, la soirée du vendredi soir, qui est une soirée d'ouverture, on va avoir plusieurs choses. Déjà, un petit speech d'ouverture, bien sûr, pour attaquer cette création de festival. Et derrière, un spectacle par deux humoristes, Mélodie Fontaine et Marc Giraud, qui sera suivi par une projection des nouvelles images du prochain film de Jean-Michel Bertrand, qui est le réalisateur de La Vallée des Loups, que beaucoup de monde a vu, et qui fait un nouveau film sur les loups. Il vient nous parler de ce nouveau projet.
Il sera là
pour nous montrer quelques images et nous parler de ce nouveau projet. Et ensuite, on a un spectacle avec deux siffleurs extraordinaires. Ça s'appelle, c'est la compagnie des chanteurs d'oiseaux qui nous font une conférence ornitho décalée et ils imitent les oiseaux à la perfection et ils les connaissent sur les bouts des doigts. C'est un vrai bonheur de les entendre. Ils seront avec un musicien et sur scène et ça, ça va être un enchantement, ça c'est sûr. Et en nocturne, on finit par une projection d'un film de Luc Maresco qui s'appelle 700 requins dans la nuit. Voilà.
J'allais dire oui, c'est bon là les siffleurs. Alors on voit tout de suite le lien avec la nature. Et alors que les humoristes, c'est des humoristes nature aussi.
Ce sont des humoristes nature qui ont fait tout un sketch, un stand-up autour de des animaux. Voilà, je vous en dis pas plus, mais
non, donc tout va être pris avec cet angle-là, auditrice auditeur. On passe au samedi.
Alors, au samedi, donc, la journée va débuter pour le public à 9h. Avec ouverture, les premières conférences vont débuter à 10h. Donc là, en journée, c'est beaucoup de conférences dans plusieurs salles. Donc de Francis Allais à François Sarano, en passant par Rémi Marion. Il y aura à la fois des conférences avec des supports de projection, des films qui seront projetés. Et puis des conférences un peu plus classiques, on va dire, mais tout aussi intéressantes. Donc ça va ponctuer la journée. Il y aura également des sorties nature durant ces journées.
Donc on ne peut pas tout faire là, il faut faire un choix,
non,
c'est ça ?
Non, il faudra faire des choix, exactement. Alors voilà, il y aura toute une organisation pour amener les visiteurs à leur dire, voilà, il y a l'étendue de ce programme. Et vous allez devoir choisir entre conférences ou des choses qui se passent dans le jardin, une sieste musicale par exemple dans le jardin ou des lectures, etc. Il y a des jauges limitées, donc merci de vous présenter un petit peu avant et de prévoir ça dans votre programme. Mais vous allez devoir faire des choix, oui.
Les sorties nature, c'est de quel type ?
Il y en a plusieurs. Il y a une sortie autour des castors, une sortie autour de la forêt. C'est Gilbert David qui va l'animer, de la LPO, qui va donc nous expliquer ce qu'on pense être du paysage sauvage. En fait, c'est un paysage tout à fait construit par l'homme, puisque ce sont que des forêts replantées ici, pratiquement. Et donc, il va nous expliquer un peu l'histoire de cette forêt qu'on a autour de nous. On a une sortie parodique. Alors ça, non, c'est le dimanche, pardon. Donc, j'y reviendrai. On va avoir une sortie autour des vautours. On va avoir des propositions de randonnée avec des vélos électriques aussi. Des démonstrations de Joëlette pour des sorties avec des personnes handicapées. Et puis, j'en oublie certainement, oui. À côté des conférences, il y a toute une partie avec des expos permanentes pendant les 3 jours, dans 6 lieux différents. Donc là, ce sera en libre accès pour ceux qui auront payé un droit d'entrée.
De quel type, là, aussi ? Photographie, enfin, un peu de tout ?
Alors, dans le temple, il y a une exposition avec 3 artistes. Un plasticien qui a fait des arbres totems. Et un dessinateur qui a fait des dessins autour des arbres, etc., qui, l'exposition s'appelle Arbre, hein, qui fait comme des totems, mais en dessin. Et puis, les dessins de Francis Allais qui sont présentés. Donc, vous allez, en rentrant dans le temple, vous promener dans une espèce de forêt, comme ça, avec une mise en son, et avec ces 3 artistes-là qui se mélangent, quoi. Voilà. Il y a une expo, plusieurs expos photographiques, une de Vincent Munier qui a fait tout un travail autour des travaux de Robert Hénard, qui est un grand naturaliste suisse, artiste du début du XXe siècle. Il y aura une exposition de Laurent Balesta en sous-marin autour des requins, en résonance avec le film de la veille 700 requins dans la nuit. Il y a une exposition de Cindy Janon en extérieur, sur le parcours, le sentier botanique du monastère, qui sont des impressions sur des grandes bâches qui seront tendues entre les arbres, avec tout un travail autour du rêve. Elle travaille beaucoup autour du rêve, donc les gens pourront noter un peu comment leur conception du rêve, quelques phrases, etc., qui seront suspendues aux arbres. Enfin, toute une ambiance, voilà, dehors.
Interactive, en plus.
J'aurai l'immense honneur de vous présenter des travaux photographiques que je fais sous forme de boîte lumineuse, et ce sera associé à une exposition de créatures de lumière qui ont été faites à partir de déchets plastiques, et avec toute une fable autour de cette histoire de déchets, voilà, dans un des jardins. Et puis dans les couloirs du monastère, il y aura l'exposition photographique d'Antarctica, donc l'expédition sur laquelle j'ai fait un film avec Vincent Munier et Laurent Balesta. Voilà.
Ce qui nous amène tranquillement au samedi soir.
Alors le samedi soir, c'est la grande soirée inaugurale.
C'est la teuf.
Avec notre parrain, Jacques Perrin, qui a accepté de parrainer ce festival et qui nous fera l'honneur d'être présent. On lui a donné une carte blanche pour choisir un film qui parle de cette thématique du sauvage. Et il a choisi de vous montrer Derzu Uzala, le chef-d'œuvre d'Akira Kurosawa, un film des années 50, si je me souviens bien. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Il vous le présentera, il vous dira pourquoi il a choisi ce film. Et ensuite, il pourrait y avoir un peu de discussion autour de ce film.
Ouais, il va rester un peu.
Donc il va rester un petit peu. Avant la projection du soir de ce film qui dure quand même plus de deux heures, il va y avoir une cantatrice qui va improviser sur des images de René Heuzey, qui est un cinéaste sous-marin. La cantatrice s'appelle Yukimi Yamamoto. Et pendant une demi-heure, il va y avoir une alternance entre ces improvisations sur ces images et puis un peu des précisions de la part du cinéaste sur les images qu'il a tournées sur le milieu sous-marin, donc des images de cachalots, de dauphins, etc. Ça va être un moment, je pense, très très beau. Et ensuite, on enchaîne, donc toujours en deuxième partie de soirée, sur une séance de minuit, on peut dire, avec un nouveau film, et ce sera le film Océan de Jacques Clouzot et Jacques Perrin.
Dans lequel ils ont fait quelques belles inventions là aussi. Hein.
Ah, tout à fait, un film magnifique qui est à revoir, ouais.
Eh bien, c'est bon pour samedi.
Donc pour samedi, je crois, donc évidemment, pour lancer les festivités, il y aura un apéritif offert qui accompagnera le speech du présentateur Marc Giraud et de Jacques Perrin. Mmh. Voilà.
Globalement, d'ailleurs, les gens, toute la journée, ont de quoi manger, se restaurer sur place, hein, bien sûr.
Tout à fait. Devant le monastère.
En local.
Exactement. Il y a la grande place devant le monastère et qui sera consacrée à des stands associatifs et à tout ce qui est restauration.
Ah, il y a un petit marché de stands, alors
Oui, avec des associations. Il y a quelqu'un qui s'est posé il n'y a pas longtemps et on ne pouvait pas le refuser. C'est Geoffroy Delorme qui a vécu une expérience assez extraordinaire et unique avec des chevreuils, où il s'est retiré dans la forêt pendant plusieurs mois et il s'est fait pote, on peut dire ça, avec des chevreuils, et il va nous montrer un peu les images de ses relations avec les chevreuils. On peut le voir bras dessus avec des chevreuils, enfin dans un contact direct avec une famille de chevreuils, et il va nous parler de cette rencontre avec le sauvage. Voilà, il y aura des stands associatifs,
les assos qui correspondent à, par exemple, tu parlais des joëlettes tout à l'heure, ou des vélos électriques. Voilà, c'est un peu tous ces représentants-là.
Voilà, tout ça, oui. Et plus certains stands où il y aura des animations, et notamment de la sculpture, où les enfants ou les grands même pourront aller et créer des choses autour de cette thématique toujours.
FestiWild avec Jérôme Bouvier. C'est au monastère de Sainte-Croix les 28, 29, 30 septembre 2018. Donc on est au dimanche là.
On est au dimanche. Alors le dimanche, la journée va être un peu plus courte. On va terminer à 16h30. Et là, on va avoir des projections, on va avoir des conférences de nouveau. On va avoir encore une animation qui va durer tout le week-end par quelqu'un qui va faire une grande fresque avec les enfants sur l'ensemble du week-end. Alors y compris le samedi matin et le dimanche matin, ça va être deux expériences sensorielles avec quelqu'un qui s'appelle Boris Nordman et qui vous propose dans l'une une session de 3 heures pour devenir un cachalot. Donc il nous amène à ressentir ce qu'un cachalot peut sentir sous l'eau.
Mais y compris quand on est en plongée.
Exactement,
très très profond.
Exactement, se mettre dans la peau d'un cachalot. Et une autre animation, entre guillemets, expérience sensorielle, je préfère ce terme, basée sur l'écolocalisation. Et
c'est les dauphins, certains dauphins.
Les dauphins, mais lui, il travaille beaucoup avec des aveugles. Et donc, il va mettre les gens en condition pour essayer de communiquer, de percevoir leur environnement avec de l'écolocalisation. Voilà, une bonne expérience. À chaque fois, ça dure entre 2 heures et 2 heures et demie. Il y a un nombre de places extrêmement limité. C'est 10 places le samedi et c'est 20 places le dimanche. Voilà, parce que c'est très, très spécial. Voilà. Il faut, vous ne pouvez pas vous inscrire. Il faudra vraiment être là en avance. Parce qu'on va prendre les 10 premières personnes qui vont se présenter. Et voilà. On aura là une compagnie qui va nous faire une sortie nature un peu spéciale, complètement décalée et allumée, on peut dire ça. La compagnie, c'est Dame Diz, qui font une sortie qui s'appelle String. Ça ne s'invente pas. Et donc là, je vous laisse la surprise parce que c'est complètement déjanté.
Donc c'est du spectacle en déambulant, hein, c'est ça ?
En déambulant aux alentours du monastère, voilà. Mmh. Il y a de nouveau le spectacle humoristique qu'on a eu le vendredi qui est rejoué le dimanche matin. Et puis donc des conférences et toujours les expositions qui seront là, voilà.
Il n'y a pas trop de musique quand même. Il n'y a pas de,
alors,
de compagnie
c'est vrai,
musicale
c'est vrai,
qui.
C'est vrai,
qui
j'en ai pas parlé. Et c'est un tort parce que le son a une grande place dans notre festival là.
Effectivement, on l'a entendu sur les expos par exemple qui sont elles aussi mises en son.
Elles sont mises en son. Il y a deux expos qui sont mises en son. Mais on a aussi un concert avec Jean Poinsignon et Jérôme Hoffman qui, à base de sons naturels et notamment de sons d'insectes, nous font de l'improvisation, un concert improvisé sur la grande scène. Ce même Jean Poinsignon nous propose également une conférence qui s'appelle « Comment jouer de la mésange ?» exactement. Et puis, il nous propose également une sieste musicale dans les jardins le samedi après-midi. On a également donc une des personnes qui met en son l'une des expositions, mais ça concerne un peu le moins le public, mais va proposer aussi dans la journée scolaire un atelier de prise de son et autour de la bioacoustique. Voilà. Mais on devait avoir un autre bioacousticien qui devait nous faire une conférence, malheureusement, un empêchement de dernière minute le prive du festival et nous prive de sa présence. Il s'appelait Michel Rodolfi et je pense qu'on l'aura dans 2 ans, cette fois, parce qu'il était vraiment déçu de ne pas pouvoir venir et de ne pas pouvoir vous proposer. Mais vous entendrez la mise en son d'une des expositions sous-marines, notamment de sa part. Voilà.
À la prochaine donc, donc il n'y aura pas de musique amplifiée et qui n'est pas du tout de l'ordre de la nature d'ailleurs.
Ouais, tout à fait. Alors on s'est beaucoup posé la question de est-ce qu'on fait une soirée festive avec concert, etc. Bon, pour celle-là, pour cette édition, on le fait pas, mais peut-être que dans 2 ans, qui sait, on verra.
Ouais, faut inviter Bruno Coulet.
Oui, tout à fait, oui.
Commence à être habitué à traiter ça. Voilà, pour la présentation de ce FestiWild, Jérôme, d'où viennent ces gens? C'est toi qui allais les chercher. Comment est-ce qu'on recrute toute cette clique?
Ouais. Alors, avant de répondre à ta question, j'ai quand même oublié quelque chose d'important. C'est que dans la salle des Antonins, au-delà des conférences, projections qu'il pourrait y avoir, il y aura un café littéraire qui sera là pendant tout le week-end. Et les auteurs qui viennent présenter leurs conférences ont tous écrit des livres, etc. Donc il y aura une rencontre avec ces auteurs tout au long du week-end possible et des échanges possibles, des séances de dédicaces, etc. Et où on va parler les faire parler sur leurs livres et leur dernier livre en date. Voilà. Et il y a certains livres qui sortent au moment du festival. Donc voilà, il y a une actualité aussi à travers eux. Donc tous ces gens qu'on est allé chercher sur cette première édition, on est 4 à organiser ce festival. Donc Frédéric Sauvage, le directeur du monastère, Madeleine Reynaud de l'ASPAS, et il y a également Stéphane Durand qui est le co-auteur des films de Jacques Perrin, entre autres, et qui écrit des livres aussi, naturaliste, scientifique. Et donc, pour cette première édition, on s'est beaucoup appuyé sur notre réseau de gens qu'on connaissait. Stéphane Durand, donc avec Jacques Perrin, nous a permis d'avoir la présence de Jacques Perrin. Et puis, pratiquement tous les gens qui nous font l'honneur de venir se connaissent beaucoup, ont travaillé ensemble, etc. Et puis après, on est tombé sur des perles qu'on ne connaissait absolument pas, comme String, comme Jean Poinsignon, comme Michel Rodolfi. Malheureusement, il ne sera pas là, donc il ne faut pas que j'en parle. Mais...
Et comment ça, en les cherchant réellement ou...
Eh ben, du coup, non, pas spécialement eux, mais on cherchait, on avait l'esprit très très ouvert sur cette thématique. Et puis, les choses se sont à un moment calées toutes seules. Et voilà, elle continue à se caler d'ailleurs, parce qu'on reçoit des propositions, on a des idées là déjà qui vont venir enrichir du coup et composer la deuxième édition en 2020, et qui certainement va être complètement différente de ce qu'on peut vous proposer là, mais voilà, on en parlera plus tard. On va terminer également par quelque chose d'extrêmement intéressant. On va clôturer le festival par une intervention de Gilbert Cochet, qui est un scientifique naturaliste, et qui vient de vivre une expérience assez incroyable. Je pense que dans le Diois, tout le monde a entendu parler des coguilles, oui, de Chen Dukua, d'Éric Julien.
Qui sont passés par là.
Exactement.
Voir notre territoire.
Tout à fait.
Et donc, l'interpréter même, j'allais dire.
Ouais, exactement. Donc ils étaient là il y a quelques jours, et ils sont venus faire une espèce d'état des lieux, de l'état de notre nature, avec leur ressenti, leur culture à eux. Et Gilbert est allé les rencontrer pour confronter sa vision d'Européen avec leur vision de la nature. Et ça donne quelque chose de, on est sûr, passionnant. En tout cas, Gilbert en ressort tout à fait ravi, enchanté, bouleversé. Et il va venir nous parler de cette expérience. Et on vous montrera quelques images donc, de Gilbert et des coguilles qui ont découvert notre région. Voilà, et on terminera là-dessus.
Ces coguilles qui ont été invités justement pour, on va dire, permettre de changer notre regard sur notre nature et notre perception sur ce qu'il était peut-être urgent de faire. Est-ce qu'il y a une finalité, un désir à ce festival là aussi? Qu'est-ce qu'on va en faire de toute cette matière qu'on aura accumulée pendant ces 3 jours?
Eh bien, l'idée, c'est d'amener non seulement les convaincus, parce que il y a beaucoup de convaincus qui viennent dans ce genre de festival, mais aussi des gens qui seront simplement attirés par les événements, à réfléchir sur cette idée de nature sauvage. C'est pas simplement de réfléchir à l'écologie, etc., mais c'est de prendre ce point de vue du sauvage, quoi, et de la place de ce sauvage dans notre société. Et si on arrive à mettre quelques graines et simplement à faire réfléchir les gens qui après pourront débattre ou en parler ou être d'accord, pas d'accord avec certaines choses, voilà, et ben voilà, nous c'est notre
objectif. On leur a au moins remis dans la tête, quoi.
Voilà, on leur a remis dans la tête en sachant, pour nous, il est essentiel que l'homme arrive à retrouver un lien fort avec son environnement. Et son environnement, à la base, c'est pas une nature maîtrisée, c'est pas une nature. Et ça, c'est un leurre de croire qu'on va pouvoir tout maîtriser sans que ça ait des conséquences. Et donc, nous, on va essayer d'amener les gens à réfléchir à cette notion et à se demander quelle place on peut laisser aux autres espèces du vivant sur cette planète. Voilà.
Le Festiwild. 28, 29, 30, septembre 2018, c'est au monastère de Sainte-Croix. Vous avez développé de la com hein, autour de ça. Il y a déjà presque un site internet, non? C'est ça?
Ah, il y a un site internet, ouais. Tout à fait, qui est maintenant tout à fait fini, complet, où vous trouverez tous les détails sur la programmation, vous trouverez tous les détails sur la billetterie, les tarifs, vous pourrez réserver. Vous pouvez aussi vous inscrire comme bénévole et cette initiative vous enchante, ben, participer et nous soutenir pour qu'on arrive à boucler le budget de cette première édition. Et donc c'est festiwild.org, https://festiwild.org, donc festiwild.org. Voilà, et vous trouverez tous les détails.
Et alors, concernant les tarifs?
Alors, concernant les tarifs, donc là, il y a plusieurs tarifs sont proposés, puisque toutes les journées ne sont pas pleines, etc. Donc, le vendredi, on est à un tarif donc à partir de 18h pour la soirée à 15€ pour les adultes. Donc, de 18h à 1h, voire 2h du matin, avec accès également aux expositions, etc. Pour les enfants de moins de 12 ans, durant la journée, sera gratuite et à partir de la soirée, ce sera 8€ pour la soirée spectacle. Mais ils ne veulent que se balader sur les expos, etc., ce sera gratuit. Le samedi, en journée, donc de 9h à 19h, c'est 10€. Et si vous arrivez un peu tard, après 13h notamment, on fait un tarif remisé demi-journée à 6€. Et à partir de 19h, donc ce qu'on appelle la soirée sur la grande scène, jusqu'à 1h, 2h du matin, ce sera aussi également à 15€. Voilà. Et donc pareil pour les enfants de moins de 12 ans, on est à 8 euros la soirée. Et le dimanche, la journée jusqu'à 16 heures, c'est 10 euros. Et si vous arrivez un peu tard, ce sera 6 euros. Et en revanche, tout le dimanche sera gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
C'est effectivement un peu compliqué, mais vous adorez faire ça. Enfin, pas toi, mais en tout cas, le monastère de Sainte-Croix aime bien les multi-tarifs. On est habitué avec les éphémères. Donc, rendez-vous sur le site de FestiWild.
Tout à fait.
J'imagine qu'on peut aussi prendre le pack avec dormir dans le lieu. Enfin,
exactement.
Des trucs comme ça.
Vous pouvez, il y a des passes. Vous verrez, tout est sur le festival, mais vous pouvez aussi dormir sur place avec un pass complet ou un pass demi-complet. Enfin, voilà, il y en a pour tous les goûts.
Est-ce qu'il y a des partenaires à citer ?
Ah ben oui, des partenaires à citer, il y en a des, voilà, il y a plein de gens qui nous ont aidés. On est en partenariat avec Nature et Découverte, avec la cave Jaillance, avec Lush dans la vallée du Rhône, avec la librairie Mosaïque Adi. Il y a évidemment Actes Sud. La plupart des auteurs conférenciers qui font partie d'une collection qui s'appelle Le Monde Sauvage chez Actes Sud. Il y a l'Éden à Crec et le Navire qui sont partenaires. Il y a Pixel, il y a le VVF Village Vacances, voilà. Il y a Ushuaïa TV, très important, qui nous ont fait une diffusion nationale, une promotion nationale sur le festival. Il y a Nateva, il y a Léa Nature, Drôme Aventure, voilà, La Manivelle, le parc naturel régional du Vercors, France Bleu, Drôme Ardèche, les Fourfayolles, etc. Enfin, il y a plein de monde qui s'est lancé dans cette aventure.
Bon, bah super.
C'est chouette. Voilà.
On a tout dit ?
Je pense, enfin en tout cas j'espère.
Eh bien Jérôme, merci pour cette présentation donc, du festival.
Je t'en prie, merci
à toi, Baptiste. FestiWild. Je rappelle les dates, 28, 29 et 30 septembre 2018. Et puis ben à une prochaine.
Eh bien à très bientôt, ce week-end-là.
Voilà, par exemple.
Pour toutes les festivités.